Bonjour à tous et pour commencer le programme de la deuxième partie de la Grande Table. Aujourd'hui, nous recevons un philosophe, Pierre Manant. Contre ceux qui pensent que rien n'est naturel, tout est culturel, il défend la loi naturelle contre celle des droits de l'homme. Sous peine de voir nos institutions se vider de leur contenu, famille, nation, université, il nous en parlera après le journal d'Antoine Mercier, exemple à l'appui. Mais d'abord, un premier roman qui fait du bruit, loué par la critique, adoubé par Stephen King, celui du talentueux Mr. Talent. À 30 ans à peine, l'auteur de My Absolute Darling s'est glissé dans la peau d'une adolescente du Grand Nord californien sous l'emprise de son père. La méfiance, l'isolement, la misogynie, de quoi est-ce le symptôme? Comment s'émanciper? On en parle avec l'auteur de My Absolute Darling qui vient de paraître chez Gellmeister. Première fois pour Gabriel Talent sur France Culture. Il y en aura sûrement d'autres. En attendant, nous, on est ravis de l'accueillir.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Quand ton papa y voit clair, il veut tout pour toi. Et quand il n'y voit pas clair, quand il ne voit pas que tu es une personne à part entière, alors il veut t'entraîner avec lui dans sa chute. Extrait de My Absolute Darling qui vient de paraître chez Gellmeister. Bonjour Gabriel Talent.
Bonjour, thank you for having me.
Merci de me recevoir.
En français ? Dans le texte.
Merci de me recevoir.
Oui, mais vous êtes le bienvenu. Bonjour à votre voix française, malgré tout. Marguerite Capel, bonjour.
Bonjour.
Elle est dure, elle jure comme une charretière. Elle a des yeux bleus et froids, débordants de vitriol et d'envie de meurtre. Entre solitude et culpabilité, Turtle, votre héroïne, s'est construite une carapace pour protéger son lourd secret. Elle repousse quiconque s'approche d'elle, redoutant qu'on lise au fond d'elle, redoutant de se trahir. Quel est ce secret, Gabriel Talent?
Son secret, c'est qu'elle vit, elle subit en permanence des abus de la part de son père qui la contrôle, qui est extrêmement cruel avec elle. Elle a terriblement peur que si les gens le découvrent, ils l'éloignent de son père. Parce qu'en dépit de tous ces abus, elle l'aime énormément et elle a peur de ce qui se passerait s'ils étaient séparés.
Elle serre la mâchoire, terriblement consciente de son visage de connasse et de sa vilaine peau, écrivez-vous. Sa blancheur est laide et irrégulière, elle le sait. Une blancheur semi-transparente, constellée de taches de rousseur. Elle se sent pétrie d'imperfection. Voilà comment elle parle d'elle-même, cette héroïne Turtle. Votre personnage est en permanence partagé entre son amour, fascination pour son père et la conscience qui lui fait du mal en affirmant le faire pour son bien. Elle est en fait dans une sorte de conflit de loyauté, c'est ça qui la tiraille.
I think that you're exactly right.
For me, oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Pour moi, le projet principal avec ce livre, c'était de saisir, de capturer ce combat de Turtle pour sauver sa propre âme. C'est une combattante et ça n'a pas de sens si c'est facile. Le projet était vraiment de montrer comment quelqu'un subit des abus et c'est de faire face à cette situation et d'y donner du sens. Quand un père, un parent blesse ses enfants, les enfants peuvent ne pas du tout comprendre ce qui se passe. Et Turtle, elle essaie vraiment de comprendre ce qui se passe.
Elle essaie de voir en elle-même. Et c'est là que naît l'écrivain que vous êtes, Gabriel Talent. Vous vous êtes plongé dans la peau et dans la tête de cette héroïne que vous avez créée. Et vous nous racontez ses dialogues intérieurs, ses tensions aussi. Elle pense, écrivez-vous toujours, elle pense, presque l'ensemble de vos phrases commence comme telle. Pourquoi cette plongée dans la psyché féminine? Pourquoi avoir choisi une jeune femme et pas un jeune homme? Quel attrait aviez-vous pour cette dimension presque morale de la douleur?
Ça aurait pu être l'un ou l'autre. En fait, la vérité, c'est que j'avais écrit le personnage de Turtle pour un autre livre. Je n'ai pas simplement décidé en fait, d'écrire un livre sur une jeune femme qui est victime de violence, mais c'est un personnage que j'avais parmi d'autres. Et en apprenant à la connaître, je me suis rendu compte que la bonne chose à faire, c'était de lui donner toute l'attention d'un livre. J'avais le sentiment qu'elle méritait une attention complète, des détails au sujet de sa vie que je n'aurais pas pu aborder si elle avait été un personnage parmi d'autres. Mais je ne me suis pas dit que j'allais écrire un livre sur des violences, une situation d'abus et décider de le faire sur une fille. C'est que je connaissais cette fille et j'ai pensé que la bonne chose à faire, c'était de l'écrire de façon sérieuse.
Parenthèse, vous avez plusieurs projets de livres comme ça en permanence ?
Non, en général, non. Ce qui se passait, en fait, c'est que je voulais écrire un livre sur les destructions de l'environnement, sur le réchauffement climatique. Ce qui m'intéresse toujours, c'est comment la violence vient du fait qu'on croit que le monde nous appartient ou que d'autres personnes nous appartiennent. C'est la façon dont la violence est liée comme ça à ce sentiment de propriété. Et c'est dans ce livre-là que j'ai écrit le personnage de Turtle et j'ai décidé finalement d'enlever tout le reste parce que finalement ce qui lui arrivait à elle, c'était beaucoup plus urgent pour moi à traiter.
Alors ce père, elle l'aime d'un côté, et je vous cite, elle monte s'habiller, chacun de ses pores emplit de son amour, un amour qui la fait se sentir grande et heureuse, et elle pense, animée d'une force vengeresse, advienne que pourra. Et d'un autre côté, elle le déteste, ce père, envahissant. Elle pense, Turtle, Alveston, il t'a violée et tu en as redemandé. Soit tu es déjà enceinte, soit tu le seras bientôt. Si tu pars, il ira dans le salon et tuera Cayenne, puis il roulera jusqu'au 266, je le fais en français, Sea Urchin Drive, et tuera Jacob. Il faut que tu comprennes dans quelle situation tu te trouves. Tu dois vraiment bien comprendre, bon Dieu, sans te mentir à toi-même. Elle est en permanence donc saisie, prise dans cette tension, et on va parler, revenir sur la figure de ce père extrêmement envahissant. Mais juste pour raconter un tout petit peu plus du livre sans tout dévoiler, son silence intérieur, cette espèce de monologue qu'elle ne cesse d'avoir, va finir par se fissurer et c'est une autre bataille qu'elle va ensuite devoir mener. Elle va tenter de sauver son âme. Qu'est-ce qui la pousse vers ça ?
Je crois que quand on est extrêmement seul, le plus seul, le plus perdu, et qu'on fait face au fait qu'on se déteste, qu'on ne mérite pas d'être sauvé, parfois la lumière qui peut nous guider peut être la compassion pour d'autres, le fait de voir les autres. Et je pense que c'est ça qui sauve Turtle. La compassion la sauve quand elle est incapable de se sauver elle-même. Le fait de se préoccuper des autres.
Celle de la petite Cayenne qui va devenir presque la deuxième victime de son père, jeune fille recueillie d'à peine 10 ans. Et elle ne veut pas que la situation se répète pour elle, ce qu'elle a connu, elle. Elle va devoir casser en tout cas ce huis clos et travailler sa relation avec les autres, votre héroïne Turtle. Une ouverture va se présenter sous les traits de Jacob, ce garçon qui l'a tellement désorientée, comme vous l'écrivez, et qu'elle ne parvient pas du coup à s'en tenir à ses propres instructions, c'est-à-dire à rester en retrait. Mais on le verra peut-être par la suite, la seule issue ce sera pour elle la confrontation à mort avec son père, le duel, la rencontre entre les deux. Turtle, elle grandit seule avec son père et son grand-père, sans référent féminin à Gabriel Talent. Vous, au contraire, vous avez été élevée par deux mères. Qu'est-ce qu'elles vous ont transmis ?
Mes deux mères étaient fantastiques. On lisait beaucoup Dickens au coin du feu le soir. Elles étaient excellentes pour raconter des histoires. Et c'était la meilleure éducation pour quelqu'un qui veut apprendre à raconter des histoires. C'était des féministes à l'ancienne. C'était des intellectuels très nuancés dans leurs pensées, ce qui était vraiment formidable pour grandir parce qu'on avait vraiment des conversations extrêmement complexes, exigeantes en famille. Et en tant qu'enfant, être poussé à penser comme ça, la politique, les autres, avec de la complexité, c'était très précieux.
Il y a beaucoup de philosophie et beaucoup de littérature en termes de référence dans ce roman. Gabriel Talent, ce sont vos propres lectures ou ce sont aussi c'est cet environnement familial qui vous a porté à lire ou l'université ?
C'était mes lectures à moi. Enfant, j'étais passionné par les idées, la philosophie. J'étais fasciné par la question de savoir comment devenir quelqu'un de bien. Donc j'ai énormément lu Platon, ça me parlait beaucoup quand j'étais adolescent. Parce que la question de savoir comment mener une bonne vie était vraiment les questions que je me posais à l'adolescence. Il n'y a pas besoin d'avoir lu qui que ce soit d'autre avant pour pouvoir lire Platon. En fait, la philosophie du 19e siècle en tant qu'enfant est très inaccessible parce qu'elle est déjà en train de dialoguer avec toute une histoire de la pensée que moi je n'avais pas. Mais Platon, c'est le début. Donc j'ai commencé par là et puis j'ai travaillé toujours en cherchant en réfléchissant à cette même question. Une idée très intéressante pour moi en tant que jeune homme.
Et les méditations de Marc Aurèle ?
Marcus Aurelius was very interesting to me.
Marc Aurèle était très intéressant pour moi parce que souvent, quand on réfléchit aux violences ou aux personnes qui ont survécu à la violence, on enveloppe ces questions de honte. Alors que la façon dont Marc Aurèle traite la violence est très éclairante. Il pense que rien de ce qui peut vous arriver ne peut vous retirer votre dignité, ne peut vous enlever le fait d'être quelqu'un de bien. Tout dépend de ce qu'on fait nous. Et pas de ce qui vous arrive, en fait. Et je pense que c'est une façon très intéressante de réfléchir à la souffrance. Et c'est parfois quelque chose qu'on a tendance à oublier et on pense toujours que les survivants de violence devraient dégager une forme de honte.
Ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea to learn its secrets, to solve its mysteries. Many stories have been told of ships and the men who sail them, of sea beasts and the men who hunt them. But none has captured the imagination through the years so much as Herman Melville's immortal story of Captain Ahab, who lost his very soul in the bitterness of vengeance against the great white whale, Moby Dick.
You're to look for a white whale.
Extrait du film de John Huston, Il n'est pas là, le capitaine Ahab demande Jacob, l'ami de Turtle, à Turtle justement en parlant de son père. Plusieurs références aussi à Moby Dick de Melville dans My Absolute Darling, Gabriel Talent. On sent que ça c'est un livre et peut-être aussi un film qui a compté dans votre galaxie. Le père de Turtle, cette figure du père, lit Enquête sur les principes de la morale de David Hume, ne se déplace jamais sans son arme, boit de la bière au petit déjeuner. Il est adepte du mouvement survivaliste, il est persuadé que le monde touche à sa fin. C'est une sorte d'écolo parano, manipulateur et père incestueux, jaloux et possessif. Martin, ou Martine, c'est au fond le père que vous n'auriez pas aimé avoir.
Non, c'est un père abominable. C'est une personne qui impose énormément de douleur. Il y a des moments où il aime sa fille, mais il y a des moments où lui souffre en fait tellement qu'il est incapable de penser à qui que ce soit d'autre que lui. Et sa propre souffrance psychologique qui dure depuis si longtemps. Il y a des gens qui passent leur vie à espérer que leurs parents les aimeront. Il est blessé en permanence. Il est vraiment consumé par les problèmes les plus fondamentaux qui existent dans la philosophie moderne.
Et pourquoi cette figure que vous avez développée vous a inspiré, ou en tout cas vous avez le sentiment qu'il se rapprochait en partie du capitaine Ahab ? Quelle ressemblance entre les deux ?
What's similar between them is that
ce qu'il y a de ressemblance, c'est que le capitaine Ahab est à la poursuite d'une idée, d'un idéal. La baleine représente la vérité du monde. Et le capitaine Ahab est dans une quête effrénée de cette vérité. Martin, lui, il est. Ce qu'il consomme, c'est la question des autres. Il y a un problème dans la philosophie, c'est la question de savoir si les autres sont vivants ou s'ils sont des coquilles vides, une construction de notre propre esprit. Quand vous regardez dans les yeux des gens, vous pouvez sentir ça, mais d'un point de vue philosophique, c'est difficile à savoir. Ce que le capitaine Ahab voit dans la baleine, Martin, lui, voit ça dans les yeux de sa fille. Il regarde dans ses yeux et il n'arrive pas à sentir qu'elle est une autre, et c'est du nihilisme.
Et ce n'est pas un personnage amoral. Il a développé sa propre morale. En quoi consiste-t-elle ?
Avec les gens comme Martin, il y a beaucoup de réflexions, de discours sur la philosophie, mais au final, ça revient toujours à la douleur, à la souffrance. C'est pas quelqu'un qui a une morale solide, en fait. Il a tort. Il est obsédé par la différence de perception entre les gens, par l'impossibilité de communiquer avec les autres. Mais ça ne devrait pas nous préoccuper. Nous devrions être davantage que ça. Nous devrions être courageux, généreux. Tout ça est vraiment bien dommage.
Extrait de My Absolute Darling. « Je t'aime trop pour te laisser partir un jour », continue Martin. Il parle à sa fille Turtle. « Tu as commis une erreur. Tu as sans doute oublié qu'on avait déjà tenté le coup. » Il sourit, se tait un instant, puis fait un geste, comme acculé à une extrémité muette du langage. « On a déjà essayé, on s'est rendu compte qu'on n'était rien l'un sans l'autre. On ne peut pas traverser ça à nouveau. C'est impossible. Il faut que tu le comprennes. Et les autres ?» My absolute darling, dit-il à sa fille. Il le répète à plusieurs reprises. Vous évoquiez la vérité à l'instant, cette quête de vérité du père, Gabriel Talent. Quel est cet absolu qu'il voit en sa fille, cet amour inconditionnel qu'il lui porte?
Je
crois que quand on est très jaloux de quelqu'un, quand on est quelqu'un d'abîmé, de possessif, ce n'est pas la personne réelle, en fait, que vous avez en tête, c'est une vision idéalisée d'eux. Manque, que vous désirez, et c'est une relation malade, en fait, avec cette personne. Ou même les mots gentils, en fait, révèlent une relation extrêmement malsaine, mauvaise. Il y a quelque chose de très dangereux dans cette façon de se lier aux autres.
Leur relation est particulièrement violente. Il y a la violence du monde extérieur, mais il y a aussi la violence intrinsèque à cette relation qu'ils ont développée entre eux. Je vous cite à deux endroits différents du livre, deux manières qu'ils ont l'un et l'autre de se regarder. Elle, la jeune fille, Turtle, elle s'entend ouvrir la porte de la chambre d'en bas. Elle entend Martine longer le couloir jusqu'au salon où grimpe l'escalier qui mène à sa chambre. Le corps de Turtle tout entier tressaille. Elle écoute, il entre dans le salon, il se poste en bas de l'escalier et elle attend. Elle pense, monte espèce d'enfoiré, tu me fais peut-être souffrir, mais tu ne me briseras jamais. Alors monte, fils de pute, et voyons ce que tu as dans le bide. Un peu plus loin, lui. Et même si tu n'en parles à personne, si tu ne montres aucun signe, si tu ne pipes pas un seul mot, mais que quelqu'un, n'importe qui, vient me voir et se contente de faire la moindre allusion, je tranche ta petite gorge et ce sera un putain de spectacle magnifique. Et on verra bien à ce moment si quelqu'un peut t'avoir. On le saura. Réfléchis bien. Tu fais partie du voyage, petite poufiasse. On verra bien alors quel genre de lumière brille dans tes yeux, quel genre de petite étincelle ineffable s'y éteint. Je regarderai tes foutues petites cornées séchées comme des écailles de poisson. Ça va, Gabriel Talent?
Yeah.
Il y avait une violence aussi pour vous, quand même.
Was it violent for me to write?
Est-ce que c'était violent à écrire?
Yes, it was terrible to write.
Oui, c'était vraiment difficile à écrire.
I felt, however, that it was important.
Mais j'ai senti néanmoins que c'était important d'aller au fond de la noirceur, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et si vous n'êtes pas prêt à raconter cette histoire, vous voulez dire que quand quelqu'un a trop souffert, on ne s'en soucie plus, on ne peut plus raconter leur histoire. Et je voulais écrire ce personnage pour montrer à quel point, même quand les choses sont extrêmement sombres, l'innocence et la dignité continuent en fait à briller sur la page et personne ne peut lui ôter ça, même Martin.
Invité de cette première partie de la Grande Table, le romancier américain Gabriel Talent pour My Absolute Darling qui vient de paraître chez Gallmeister. Un roman pareil ne pouvait pas être pensé par son auteur sans sa bande son. Si je vous dis Psychotic Girl... Thank you.
them up just to let them down. It's the same, baby, but I always know just the way you're gonna do. Oh, oh no. Just a psychotic girl, and I won't get lost in your world. Friday night, a party light, you were acting like everything was alright.
Black Keys, un groupe de rock américain originaire de l'Ohio cette fois, pas de ce nord californien qui est le vôtre, Gabriel Talent. Bienvenue à vous sur France Culture, on est lundi.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
C'est un portrait en creux aussi de l'Amérique, My Absolute Darling, votre roman, Gabriel Talent. Est-ce qu'il y avait l'envie aussi de raconter ce pays, de cette violence ordinaire en milieu tempéré?
C'est difficile parce que je ne crois pas que cette violence soit ordinaire, en fait. Je pense que c'est un problème très insinué dans notre culture et auquel il faut qu'on fasse face. Ce que je voulais dire au sujet de l'Amérique, c'est cette impression de détachement du processus politique. Les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent plus tenir les rênes du pays. Et il y a donc une tendance à se mettre en retrait de la politique.
Le père de Turtle est armé jusqu'aux dents et il a transmis cette culture des armes à sa fille. C'est peut-être pas étonnant, Gabrielle Talent, si c'est une jeune femme de 18 ans, crâne rasé, rescapée de la fusillade perpétrée dans un lycée de Floride le 14 février dernier, qui incarne aujourd'hui la lutte contre les armes à feu. Ce visage d'Emma Gonzalez qu'on a vu un peu partout, égérie de ce mouvement, qui est quand même très particulier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, une prise de conscience est en train d'arriver aux États-Unis sur le danger des armes?
Je l'espère. J'espère
qu'il y a une prise de conscience qui se développe et puis j'espère surtout que les gens vont vraiment s'engager dans le débat, quel que soit leur point de vue sur le contrôle des armes. Ces jeunes devraient avoir le droit de manifester sans être menacés. Et si nous, Américains, nous ne croyons pas à ça, je ne sais pas en quoi nous pouvons croire, parce que ça, c'est mon pays, en fait, pour moi.
Quel est votre point de vue à vous sur le sujet ?
Je suis pas très à l'aise là-dessus parce que mon point de vue, c'est que nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. Je crois au contrôle des armes, mais je veux qu'il y ait un débat, un dialogue, et je veux qu'on y arrive par un processus politique. Nous avons laissé trop de gens sur le bord de la route en Amérique avec l'impression qu'ils n'avaient pas voix au chapitre. Donc je pense qu'il faut des lois sur le contrôle des armes, mais toujours avoir ce débat, cette discussion. Je pense que mes opposants politiques sur la question ne sont pas des ennemis et qui ne sont pas stupides. C'est toujours trop souvent en fait ce qu'on pense.
C'est presque une question philosophique que j'avais envie de vous poser, Gabriel Talent, en défense du deuxième amendement de la Constitution américaine. on a entendu la NRA, l'association pour les armes à feu, dire que les armes ne tuent pas les hommes, ce sont les hommes qui tuent les hommes. Est-ce que pour vous, les armes restent un objet comme les autres ?
Non.
Je ne crois pas que ce soit vrai. En fait, les armes à feu rendent la violence bien plus accessible.
Et
je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça. Pour moi, la NRA ne représente pas les arguments des gens. C'est une organisation en fait qui a une histoire raciste très forte aux États-Unis.
Et à réécouter à ce sujet une histoire particulière, récit documentaire en deux parties diffusé hier sur l'antenne de France Culture. Qu'est-ce qu'une arme ? Un documentaire assez édifiant sur ce sujet. Un roman publié en France chez Gallmeister, éditeur spécialisé dans le nature writing, comme on dit, cette littérature des grands espaces, ce qui est le cas ici aussi pour votre roman, Gabriel Talent. Pourquoi était-ce important pour vous d'inscrire cette histoire très intime entre cette fille et son père, cette histoire d'émancipation dans un environnement qui la dépasse, qui dépasse votre héroïne?
Je crois que c'est à ça que devraient ressembler nos vies en tant que personnes. On devrait toujours être face à un monde qui est plus important, plus grand que nous, qui a plus de sens. On devrait se rendre compte à quel point on est petit. Je crois que la nature, c'est les grands espaces, c'est le seul contexte qui correspond en fait à la vie humaine. Tout le reste, c'est une scène en fait, et c'est une façon de passer le temps.
On vous a comparé à William Faulkner pour Le bruit et la fureur. Voilà ce qu'il disait du rôle de l'artiste et on terminera presque sur sa voix. C'était en 58.
Eh bien, s'il consacre son temps à influencer la société, il ne lui restera plus beaucoup de temps pour être un bon poète. Je pense qu'il ferait mieux d'y aller franchement et d'essayer d'être un bon poète et de laisser la société s'influencer toute seule. Et je crois que ce qu'il doit écrire, c'est la poésie des vérités fondamentales, celle des conflits du cœur humain avec lui-même, et pas les conflits des syndicats ou la hausse des prix. C'est pas à lui de se demander comment avoir une Cadillac alors qu'on a seulement une Mercury. Il doit rester simple, s'en tenir aux choses fondamentales, qui sont les angoisses et les troubles liés à ses propres ambitions, sa capacité défaillante à accomplir ses rêves. C'est ça la musique, la poésie. Ça n'a rien à voir avec l'économie ou avec l'appartenance à un mouvement libéral ou avec le progrès de l'humanité. L'artiste n'en a rien à secouer de l'humanité, il n'a pas le temps. Il est trop occupé à être un artiste, à écrire de la poésie, à composer de la musique, à prendre des photos.
Vous êtes d'accord avec lui, Gabriel Talent ?
J'ai pas saisi tout ce qu'il a raconté, mais non.
I care very much for people.
Moi,
that's
je
why
me
I
soucie
write.
De l'humanité des gens et c'est pour ça que j'écris.
If we don't care about other people, if we aren't writing
si
to make
nous
other
ne soucions pas des autres et si nous n'écrivons pas pour que les gens aient l'impression qu'on les voit, que leur dignité est reconnue quand eux-mêmes ne la perçoivent pas, je ne sais pas en fait au nom de quoi on fait ça.
Un livre coup de poing, voilà comment notre confrère de France 5, François Bunel, a qualifié ce roman, le vôtre, Gabriel Talent, My Absolute Darling, a noté aussi la sortie du nouveau numéro de la revue America, co-dirigé justement par François Bunel. Il nous a permis de vous connaître un peu mieux aussi ici. J'espère qu'à travers la grande table, beaucoup auront envie de se diriger maintenant vers ce roman très fort. Merci mille fois à vous d'être venu autour de cette grande table, Gabriel Talent. Merci.
Thank you.